Chers frères et sœurs, dans le Messie Yeshua, je vous salue. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et vous donne la grâce de rester fidèle jusqu'à la mort ou bien jusqu'à ce que la trompette sonne. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2022 et nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné encore la grâce de vivre ces moments et encore une fois de parler de sa parole. J'aimerais énumérer quelques réflexions concernant le retour du Seigneur Jésus, Yeshua de son vrai nom, Yeshua le Messie, son retour, son apparition dans les airs et le rassemblement de tous les croyants avec lui et également son retour physique sur cette terre. J'aimerais énumérer quelques réflexion donc à partir du livre de Genèse et à partir des fêtes de l'Éternel. Le livre de Genèse chapitre 1, le verset 14 et le livre de Lévitique chapitre 23 en ce qui concerne donc les fêtes de l'Éternel. Je n'en fais pas une doctrine, mais je sais qu'il y a un frère qui a déjà écrit un livre sur les fêtes de l'Éternel, le retour de Yeshua. C'est le frère, un frère messianique, Alain de Coupé. Alain Coupé, je pense que c'est ça. C'est un livre qui est gratuit, hein, qui est téléchargeable sur Internet. Vous pouvez vous en procurer. Mais néanmoins, moi, j'aimerais partir d'un autre angle, donc à partir d'un simple mot pour démontrer. En tout cas, je n'en fais pas une doctrine, pour démontrer que le retour du Seigneur va s'inscrire dans les fêtes de l'Éternel de Lévitique 23. Voilà, c'est une démonstration, je n'en fais pas une doctrine. Il est vrai que personne ne connaît le jour de la venue où la trompette sonnera. Mais cette trompette ne sonnera pas à n'importe quel moment comme on nous l'a toujours enseigné. Moi, je n'y crois plus à ça. De la même manière que je ne crois plus au Vendredi Saint, puisque Yeshua lui-même a dit, lorsqu'il était sur cette terre, qu'il passera 3 jours et 3 nuits dans le centre de la terre, comme Jonas a passé donc 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Donc voilà, à moins de décaler le jour de la mort de Yeshua, on ne peut pas, en tout cas aujourd'hui, puisque la connaissance a augmenté, on ne peut plus accepter que Yeshua a été crucifié un vendredi et ressuscité un dimanche matin. Ça ne tient pas la route. En tout cas, c'est mon opinion, c'est ce que je crois, c'est ma conviction aujourd'hui. Donc, nous, sans plus tarder, donc, nous allons lire les versets et essayer donc de développer nos arguments. Bon, j'espère que chacun d'entre nous pourra tirer bénéfice de ce que je vais dire, puisque je crois aussi avoir le Saint-Esprit. Voilà, je crois aussi avoir le Saint-Esprit. Et la Bible nous exhorte à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. J'espère que vous retiendrez ce qui est bon de ce que je vais dire et que nous en serons tous fortifiés et nous continuerons à œuvrer, à attendre donc la trompette. Je signale simplement que le Seigneur Yeshua viendra donc au son d'une trompette, un signal donné selon 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 que je vais lire. J'aimerais que vous ayez ce verset en tête. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, retenez bien ce mot, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Cette trompette, ce qu'on dit, c'est au son du chauffard, descendra du ciel. Il se tiendra dans les airs. Il faut dire que la Bible ne parle jamais d'enlèvement. La Bible parle de rassemblement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts dans le Messie, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, retenons donc ce verset comme, une ligne directrice. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais sans plus tarder, donc, allons dans Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, donc à partir du verset 14. J'aimerais à partir d'un simple mot. Hein. Donc, Elohim dit qu'il ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dans d'autres versions, on parle de pour marquer les temps ou bien pour marquer les saisons. Je vais lire dans la version hébraïque. On nous dit, Elohim dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours et pour les années. J'aimerais bien que vous reteniez le mot saison, le mot époque. En hébreu, le mot époque, le mot traduit par époque, saison, temps, ainsi de suite, ou solennité, veut dire moed. Quand on parle des époques, on le met au pluriel, ça fait moadim, moadim. Donc ça fait époque, les époques. Moed, époque, ou saison, ou temps. Donc moadim, les époques. Et les temps, ainsi de suite. Ce mot, bon, je vais dans le dictionnaire Strong, hein. Vous allez voir, ce mot a plusieurs significations. Ce mot apparaît dans 211 versets des Écritures. 211, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire endroit convenu, temps fixé, réunion. Temps marqué, vous voyez, notre temps marqué, fixe, saison, fête solennelle, saison fixée, assemblée, parce que le mot moed également veut dire tente d'assignation ou bien tente de rencontre, vous voyez, tente de rencontre, ça veut dire ça, tente de rencontre où l'Éternel rencontrait Moïse ou bien rencontrait donc les Hébreux, le peuple sorti de l'Égypte. D'accord? Ça veut dire stand d'assignation. Ça veut dire signe fixé ou signal. Tente de l'assemblée d'assignation ou tente de rencontre. Donc, généralement, ça a été traduit par les différents traducteurs. Donc, époque, temps fixé, temps marqué, assignation, assemblée, fête, lieu fixé, signal, pendant, moment, solennité, temple, lieu saint, nouvelle lune, saison. Et ce mot, Moed, donc, apparaît dans 211 versets, dont le chapitre 23 de Lévitique. Chapitre 23 de Lévitique, où on nous parle des fêtes de l'Éternel. Le mot traduit par fête ou bien solennité dans la version hébraïque veut dire, en tout cas, c'est le même mot que le mot que nous venons de voir dans Genèse 1, qu'on a traduit par époque. Nous avons vu que ce mot peut signifier fête, lieu saint, temps fixé, signal, signe, et moment, réunion, temps fixé, et temps d'assignation, temps de rencontre, ça veut dire même temple, ainsi de suite. Ça veut dire aussi fête. Donc ce mot moed donc apparaît dans le chapitre 23 de Lévitique. Ce chapitre est consacré donc aux fêtes de l'Éternel. Le verset 1 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations, voici quelles sont mes fêtes. Donc le mot fête également traduit est moed, c'est le même mot, Lorsque deux mots ou bien plusieurs mots apparaissent dans la Bible, donc ces mots sont d'abord pareils, ont la même signification, mais c'est la toute première fois que ce mot apparaît, donc qui donne donc la signification à ce mot. Donc ce mot, Moed ou Moadim, les époques, donc, est apparu dans Genèse et associé donc au temps, associé aux saisons, associé aux époques, associé à un rythme de temps, à une référence. Ces mots, voilà. Donc, le mot traduit par fête de l'Éternel, au fait, sont des moments, sont des références, sont un signal pour qui? Un signal, donc, pour le peuple. Ce sont ces fêtes, donc, rythment la vie spirituelle, donc, d'Israël à l'époque, voilà, même de l'Église à ses débuts. Ces fêtes rythmées, donc, ce sont en quelque sorte des fêtes prophétiques. Il faut dire que toute la Bible est prophétique. Et Pierre nous dit, en tout cas, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que la Bible ne peut pas être, aucune prophétie ne peut être d'une interprétation particulière. Cela veut dire que nous devons avoir une vue globale. La Bible s'interprète à elle-même. Il ne peut pas avoir de contradiction. La Bible ou bien la parole de Dieu va de Genèse à l'Apocalypse. On ne peut pas faire de distinction parce que la Bible est une. Yeshua lui-même, lorsqu'il était parmi nous sur cette terre, l'avait bien dit. Un seul iota ne sortira de la loi ou bien de la Torah ou bien de la parole ou bien des Écritures sans que tout, avant que le ciel et la terre ne passent. Donc, cette parole est encore active aujourd'hui. On ne peut pas les séparer. De la même manière, l'Éternel Dieu est un, Ehad. Sa parole aussi est Ehad. Il y a une unité dans sa parole. Et avant, il faut savoir que dans les années 60, lorsque ce que nous appelons le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Il faut dire que les apôtres prêchaient avec quoi? Avec les Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament, les Psaumes et les prophètes. Même Yeshua a utilisé cela, le Seigneur Jésus a utilisé cela, et ce que nous appelons le Nouveau Testament n'est que le commentaire de l'Ancien Testament, ou bien la vraie explication, ou bien l'accomplissement donc de l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas scier la branche sur laquelle est assis donc le Nouveau Testament. Et puis, le terme Nouveau Testament, moi, je vois, hein, c'est inapproprié parce que le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de testament, ça suppose la mort du testamenteur. Or, nous disons tous que Yeshua n'est pas mort, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant pour toujours. Donc, on ne peut plus continuer dans ce sens parce que cette différenciation a fait beaucoup de dégâts. Et je nous rappelle que cette différenciation est apparue qu'au 4e siècle, même plus tard, et qu'au début, il n'y avait pas cette distinction. Et nous devons savoir que les évangiles ont été écrits avant l'an 70, hein, parce que on a trouvé une copie de l'évangile de Marc en hébreu dans la grotte de Qumran. Qumran, donc, ou de, oui, c'est ça, de Qumran. Donc, cela veut dire que ces écrits existaient avant la destruction du temple. Or, la destruction du temple a eu lieu en 70 après Yeshua. D'accord? Après Yeshua. Donc, voilà. Donc, nous voyons bien que, parce qu'il y a aussi une polémique sur la date de redaction de la parole de Dieu, mais cette découverte donc de l'évangile de Marc en hébreu dans les grottes de Qumran montre que les évangiles existaient avant donc l'an 70. Maintenant, revenons donc à notre étude au mot Moed, au Moadim au pluriel. Donc ces mots sont semblables. D'accord? Ces mots sont semblables. Donc, ces fêtes de l'Éternel aussi sont marques des époques de vraies. Donc, dans le calendrier de Dieu, voilà, sont dans le calendrier de Dieu. Parce qu'au fait, ces fêtes, au fait, sont des calendriers prophétiques qui doivent marquer les saisons, les temps, hein, qui marquent aussi les temps. C'est aussi un temps fixé, c'est aussi un appel au rassemblement, à la convocation. C'est une saison fixée, c'est une époque, un temps, c'est aussi un signal. Un signal, c'est un signe fixé. Oh, nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4 que le Seigneur lui-même a un signal donné. Ouais, le mot signal, a un rassemblement, va rassembler ses élus au son de la trompe, au son du chauffard, au son du chauffard, hein, au son du chauffard. Donc, ces fêtes, donc, sont des signaux, sont des moments, sont des solennités, sont des époques, des temps fixés qui rythmaient, donc, ou bien qui annonçaient quelque chose, puisque la Bible nous dit que toutes ces choses qui ont été écrites sont là pour notre instruction et que les choses là étaient et sont, c'est pas étaient. Parce que dans beaucoup de versions de la Bible, ça a été traduit hein, que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, était l'ombre des choses. Non, vérifiez vous-même en grec, c'est au présent. C'est l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Donc, ces choses ne sont pas encore passées. De la même manière, ces fêtes de l'Éternel ne sont pas encore passées. Il y a une partie qui est passée, mais il y a une seconde partie qui doit venir, qui doit avoir un accomplissement. D'accord? Voilà le mot Moed, ou les Moadines, les fêtes. D'accord, ces fêtes donc sont des temps fixés, sont un signal, sont des saisons qui doivent quand même nous rappeler beaucoup de choses, comme aussi les luminaires. Vous savez, nos calendriers sont basés sur quoi? Sur le soleil, le calendrier grégorien que nous utilisons, ou julien, voilà, et le calendrier aussi islamique et puis hébraïque sont basés sur la lune, sont des calendriers lunaires. Donc nous voyons, donc ces fêtes aussi sont comme des calendriers de l'Éternel Dieu qui nous annoncent des choses à venir. D'accord, mes frères et sœurs, voilà, je suis en train de faire une démonstration, je suis en train donc de parler des époques, le mot Moed qu'on retrouve également dans les fêtes de l'Éternel. Donc, ces fêtes aussi sont des temps, sont des signaux, sont des signes, sont des temps fixés, sont des références pour nous croyants. Pour nous croyants. La preuve que ces fêtes donc sont des références, c'est que Yeshua a accomplit une partie de ces fêtes. Puisque ces fêtes sont, il y a sept fêtes, hein, sept fêtes, voilà. Il y a quatre fêtes au printemps et trois fêtes donc à l'automne. Nous voyons que Yeshua a accompli les quatre fêtes du printemps. Donc cela veut dire que nécessairement il accomplira donc les trois fêtes donc de l'automne, parce que la Bible dit que ce qui a été sera, que Dieu, l'Éternel Dieu, ramène toujours ce qui a été, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc cela veut dire que si Yeshua a accompli les fêtes de l'Éternel, a été marqué par ces temps, les temps liés, le rythme des fêtes, cela veut dire que il ira jusqu'à la fin. Ce qu'il a commencé, il le termine toujours. Ce qu'il a commencé. Parce que il y a aussi, Yeshua dit également qu'il est quoi? Il est l'alpha et l'oméga. Ou bien, bon, en hébreu, il ne parlait pas grec, hein, sûrement. Ben, voilà. Il a dit qu'il est l'aleph et le tav. L'aleph et le tav, le début et le commencement. Ce qu'il a débuté, il le finit toujours. Donc, nous allons voir. En tout cas, personne ne peut mettre en doute ce que je dis. C'est dans la Bible. Examinez bien les choses et vous verrez que ça tient la route. Dans Lévitique 23, la Bible nous dit que les saintes convocations que vous publierez à le temps de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel, il n'est pas parlé de fêtes juives, hein, d'accord? De fêtes juives. Les fêtes de l'Éternel, lisez vous-même. Le premier mois, le 14e jour du mois, le premier mois, le spirituel ou bien religieux, donc le premier mois religieux, donc c'est le mois de Nissan, c'est mars-avril, ça correspond à notre mars-avril du calendrier julien, mars-avril. Le 14e du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Il n'a pas dit la Pâque juive. Le 14e jour de ce mois, ce soir, voilà, ce sera la deuxième fête, donc la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc voilà, nous avons la première des fêtes, c'est la Pâque, ou bien la première des temps, des saisons, des marques, des signaux. C'est la Pâque. Yeshua a-t-il accompli la Pâque ou pas? Ben si, il est mort le jour de la Pâque, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. Et voilà, il est mort. Il a accompli, il est venu, il a accompli, il est mort, il nous a racheté de la vaine manière de vivre, puisque cette fête de Pâque, sans S bien sûr, symbolise donc la destruction en quelque sorte le pardon du péché, la destruction du péché, ou bien la libération de l'Égypte, la libération de ce monde. Ce monde était en captivité sous le diable qui régnait sur ce monde à cause du péché, à la mort de Yeshua, à la Pâque. Au Pessah symbolise donc la libération de l'humanité des jougs de l'ennemi, des jougs du péché. Désormais, toute personne qui se tourne vers Yeshua est pardonnée de ses péchés. Et cette fête avant, on sacrifiait un agneau qui couvrait le péché, mais la mort de Yeshua a effacé le péché. C'est bon, nous sommes libérés. Libéré de l'Égypte, libéré du monde, libéré des griffes de l'ennemi. Mais aujourd'hui, la majorité des chrétiens ou des croyants, des gens qui se disent disciples, ne fêtent pas Pâques. Ils fêtent plutôt Pâques, avec S, une fête instituée par Constantin, par l'Église catholique, qui n'a rien à voir. Vous pouvez vérifier dans la Bible, Pâques avec S n'existe pas dans la Bible. D'accord? Voilà, la preuve, c'est célébrée donc avec des œufs et des lapins, ainsi de suite. Et cette fête donc a conservé son nom païen en anglais, Ista, qui est en lien avec la déesse Esta, Astarté, ou Asherah, ainsi de suite, donc, qui nous vient de Babylone, de l'Égypte ancienne. Or, on nous dit. La Bible nous exhorte à sortir de Babylone. Vous voyez, la majorité des frères et sœurs sont bien sûr sortis de Babylone, sortis du monde, mais Babylone n'est pas sortie d'eux. Sinon, pourquoi continuer? Aujourd'hui, là, c'est ça que je ne comprends pas. Moi, vous savez, depuis que je suis né de nouveau, je me suis heurté à cette contradiction, même si je ne le disais pas parce que je n'avais pas beaucoup de connaissances à l'époque, même si, bon voilà, je craignais un peu de m'opposer aux responsables de ma dénomination, ainsi de suite, mais ça m'a toujours posé un problème à l'époque. Toujours, toujours, je réfléchissais là-dessus. C'est pas normal qu'on continue encore d'être sous le joug de l'Église universelle et de Constantin. C'est plus possible, mes frères et sœurs. On ne peut pas associer l'Éternel Dieu à cette fête de Pâques qui est une fête païenne. Mes frères et sœurs, ouvrons les yeux. La Bible nous dit de sortir de Babylone. Sortir de Babylone. Sortir. Sortez du milieu d'eux. Mais oui, sortez du milieu d'eux. Il y a eu la réforme qui a permis une sortie. les baptistes, les évangéliques, ainsi de suite, les pentecôtistes, ainsi de suite. Sortons de tout cela, de tous ces nyama-nyama de fêtes. Sortons de là. Oui, donc voilà, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, même Noël, qui ne se trouve même pas dans la Bible, a plus de valeur chez les chrétiens que Pâques. C'est insensé. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est insensé. Vous voyez, nous avons laissé la source d'eau vive qu'est l'Éternel Dieu, qui est sa parole, et nous nous sommes créés nous-mêmes des citernes crevassées. Ça ne tient plus la route, mes frères. De même que Vendredi Saint, là, ça ne tient plus la route. Mais on continue, même chez les évangéliques, même chez les églises dites bibliques. Bibliques, si vous êtes bibliques, appliquons la Bible. Allons-y, appliquons la Bible. Moi, je ne comprends plus. Voilà, en tout cas, bon, ok, je le dis, hein, je le dis. Franchement, je le dis, franchement. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Le maboule est dans le monde. Maboule, c'est la confusion. Hein, est dans le monde, quoi. C'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à suivre les traditions humaines. Même Yeshua, lorsqu'il est sur la terre, qu'est-ce qu'il a reproché aux pharisiens? De suivre des traditions humaines. Pâques avec S fait partie des traditions humaines. C'est pas une fête de l'Éternel. Donc, Yeshua, je reviens, excusez-moi, mais je suis passionné de ça depuis que j'ai découvert ça. J'en suis passionné. Oui. A accompli la Pâque du début jusqu'à la fin. Et de la même manière, la fête des pains sans levain. Il est sans péché. Le levain symbolise le péché. Yeshua est sans péché. C'est pour cela qu'il a pu constituer un sacrifice parfait. C'est un sacrifice parfait, sans défaut ni péché. Il a même dit, le diable est là, mais il n'a rien à moi. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a rien, même toute la fête de Pâques, les symboliques, tout ce qui se passe rappelle la mort de Yeshua. Avec les pains sans levain qu'on brise, la Bible nous dit, qui sera brisé pour nos péchés, Ésaïe 53, il y a un pain sans levain qu'on brise, on cache une partie sous un torchon, sous une serviette, on cache cette partie avant d'aller la rechercher et de la sortir, donc c'est la résurrection. Le vin qui symbolise le sang versé. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Vous connaissez cela. Donc, Yeshua accomplit la fête de Pâques, la fête des pains sans levain qui suit. Et également, il est ressuscité, voilà, le jour des prémices. L'Éternel parla à Moïse, le verset 9. Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras. Quand vous serez entrés dans le pays et que je vous donne, que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. La fête des prémices. Yeshua, premier ressuscité, premier, il faut qu'il soit en tout le premier. C'est ce que la Bible nous dit. Le premier né de la création. Il faut qu'il soit prééminent. Le premier ressuscité. Voilà. Premier ressuscité. C'est lui. Il est ressuscité pour toujours et il vit. Voilà la fête des prémices. Il a accompli également cela, mes frères et sœurs. Il a accompli. Il est ressuscité. Et le verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée du côté d'autre, vous compterez 7 semaines entières. La fête des semaines ou Pentecôte. Donc, puisque la religion chrétienne a faussé la fête des Pâques depuis le concile de Nicée au 4e siècle, donc toutes les fêtes sont faussées. Pentecôte chrétienne est faussée également. De la même manière, aujourd'hui, on a plusieurs calendriers, n'est-ce pas? Calendrier julien, grégorien, calendrier rabbinique, calendrier messianique, on ne sait plus. Donc, on fête deux fois Noël, les catholiques fêtent ça le 25 décembre, les orthodoxes le 6 Le 6 janvier, ça n'a plus de sens. Yeshua ne peut pas naître deux fois à des dates différentes. Ça n'a plus ça n'a plus de sens, quoi. Vous comprenez ce que ça, c'est un exemple humain. Hein, voilà, donc, pour parler même de la naissance de Yeshua, on ne connaît pas la date. Certains disent que il est né à la Pâque, puisque là, il y a une tradition rabbinique qui dit que le Messie apparaîtra à la Pâque. Mais néanmoins, il y a un verset de Jean, quand Jean dit que cette lumière, cette parole s'est faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Au fait, le terme en grec, c'est elle a planté sa tente parmi nous. Ce qui fait dire à certains exégètes que Yeshua est né à la fête de Soukhot de Tabernacle, au mois de septembre. Voilà. D'accord? Bon, voilà. Moi, je ne prends pas position de cela. La Bible ne nous a pas permis de connaître la naissance. Bon, l'Éternel, Dieu sait pourquoi. Mais on a deux dates qui s'affrontent, au mois de Nissan et puis au mois de septembre au Tiri, en hébreu. Donc voilà, à ce mois d'automne, voilà. Donc voilà, donc c'est ça que je pourrais dire. Donc Yeshua accomplit la Pâque, la fête des pains sans levain, les prémices, et de la même manière, il a envoyé son esprit qui n'est pas venu à une date fantaisiste comme ça, mais à la fête des semaines, Shavuot, la fête des semaines, 50 jours après. Donc la fête des Shavuot qui correspond donc au don, à la réception de la Torah, des enseignements de Dieu par Moïse au mont Sinaï. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas venu comme ça d'une manière fantaisiste, mais non, pas du tout. Ce n'était pas une fête chrétienne. C'est les fêtes de l'Éternel. C'est le jour, la fête des semaines, Shavuot. Shavuot, c'est semaine en hébreu. Fête des Shavuot, que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Avant, le Saint-Esprit venait, résidait dans des gens qui avaient une mission particulière. On l'a vu dans l'enseignement sur le roi Shaoul, où lorsqu'il a été oint, la Bible nous rend témoignant que l'Esprit de Dieu était rentré en lui et Shaoul, le roi Shaoul, était devenu un autre homme, que le Ténèbre a changé son cœur. Voilà. Et jusqu'à ce que Shaoul désobéisse, donc le Saint-Esprit résidait en lui, mais lorsqu'il a désobéi, le Saint-Esprit ou la Ruach HaKodesh s'était retiré de lui. D'accord? Mais ici, l'Esprit Saint a été répandu. Yeshua a envoyé et lui-même a dit que c'est le Père qui va l'envoyer en son nom et que l'Esprit Saint prendra de ce qui est à lui et nous le donnera. Et il nous enseignera encore des choses que nous ne connaissons pas. C'est ce qu'il a dit. Voilà, donc, et l'Esprit est descendu le jour de cette fête de Shavuot, mais également qui correspond au don de la Torah. Donc la parole et l'esprit sont un. Et l'esprit qui vivifie la parole, qui l'explique. Et dans Jérémie 33, la Bible nous dit vraiment que l'Éternel Dieu écrira la Torah dans notre cœur, écrira ses paroles, son enseignement dans notre cœur, par l'Esprit Saint. Voilà, il donnera de son, il répandra de son esprit, il va changer nos cœurs, il va donner un cœur de chair. Avant, la loi était extérieure à l'homme. On disait, tu ne feras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas d'idole, voilà ceci. Alors que, après, lorsque l'Esprit Saint est venu, c'est que tu aimeras. Avant, c'est tu ne feras pas. Maintenant, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, la loi est écrite. C'est le Saint-Esprit qui l'écrit. Donc, la parole n'est pas séparée de l'Esprit. Si nous voyons quelqu'un dit quelque chose, sous l'inspiration, soi-disant, de l'Esprit de Dieu, qui est contraire à la parole de Dieu, nous ne devons pas le suivre. C'est pourquoi la Bible nous enjoint d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Parce que le prophète parle toujours de la part de Dieu. Et dans Deutéronome 18, la Bible, verset 18, nous dit bien que le prophète, c'est l'Éternel, lui dit de dire les choses et que la parole du prophète se réalise toujours parce que c'est ce que Dieu lui a dit de dire. C'est ça. Et que si cette parole ne s'accomplit pas, c'est que Dieu ne lui a pas dit. D'accord? Donc, la parole et l'esprit de Dieu sont un. C'est pour cela que l'esprit s'est descendu ce jour-là, le jour de Shavuot, mais c'est le jour du don de la Torah. Beaucoup de frères et sœurs ignorent ces choses ou bien ne prêtent pas attention à ces choses. J'ai même vu des gens qui disent, oh, l'Ancien Testament, moi je ne lis plus, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, donc les gens ne lisent plus ces choses. C'est dommageable. C'est vraiment dommageable. C'est vraiment dommageable, vraiment dommageable. Donc, c'est ça, c'est vraiment dommageable. Hein? Donc, voilà, nous poursuivons. Donc, ça, c'est la fin donc des fêtes du printemps. Donc, Yeshua les a accomplies à la lettre. À la lettre. Et il y a un verset que j'aime beaucoup où Yeshua dit toujours, il faut que les Écritures s'accomplissent. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Hein? Il a même dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant, il faut que nous accomplissons les Écritures. Voilà, les Écritures, voilà, c'est ça. Les Écritures, les Écritures, les Écritures. C'est ce qu'il dit. Hein? Les Écritures doivent s'accomplir. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Hein? Il faut que les Écritures s'accomplissent. Il a dit à plusieurs reprises de la même manière. L'apôtre Paul, sous l'inspiration donc du Saint-Esprit aussi, nous a dit ça. Donc voilà, dans Marc 14, le verset 49, il dit, Yeshua disait à ses interlocuteurs, j'étais tous les jours parmi vous enseignants dans le temps, vous ne m'avez pas saisi, mais c'est enfin que les Écritures soient accomplies. 1 Corinthiens 15, 4. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Je vous ai enseigné 1 Corinthiens 15, 3. Avant tout, comme je l'avais reçu, que le Messie est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Vous voyez? Selon les Écritures. Selon les Écritures, toujours. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Ouais. Donc, il a accompli les Écritures à travers donc les quatre fêtes du printemps, les Moëdes. C'est pour cela que l'Éternel Dieu, il n'y a jamais de hasard dans la Bible, a désigné et les époques que doivent marquer ces luminaires et ces fêtes, les solennités, parce que ce sont des fêtes qui sont quoi? Des signaux, qui sont un appel, un rappel, qui sont comme des références, qui sont des lieux, qui sont des temps. Ces fêtes doivent marquer le temps, la saison prophétique de la venue de Yeshua, ou bien de l'accomplissement des Écritures. Et Yeshua a commencé donc par les quatre fêtes. Il les a toutes accomplies. Et maintenant, il reste les trois fêtes, les trois moadim, donc de l'automne. Et comme les Écritures doivent s'accomplir, nous savons que le retour de Yeshua également se fera selon les Écritures. Ben oui, selon les Écritures. Ça ne va pas manquer, selon les Écritures. Donc, la première des fêtes du printemps, nous voyons, C'est la fête des trompettes, la fête des trompettes. Voilà, le verset 23 de Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. C'est une convocation, c'est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servi. Vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. La fête des trompettes. Ou bien, c'est pas des trompettes, mais des chauffards. C'est un instrument à cornes de bélier. On souffle dedans. Le son est puissant. Il y a différentes sortes de sons, de chauffards. Au son. Or, la Bible nous dit que dans 1 Thessaloniciens, donc que nous avons lu tout à l'heure, que la venue, l'apparition du Messie ou bien le rassemblement avec le Messie se fera quoi? Au son du chauffard de Dieu. Et que le Seigneur apparaîtra dans les airs, descendra du ciel, et les morts dans le Messie vont ressusciter, et tous ses disciples vont aller donc avec lui à sa rencontre sur des nuées. Donc, bon, nous pouvons, sans nous tromper, nous dire que puisqu'il est parlé de trompette, il est parlé de signal, et que le mot fête veut dire signal, veut dire temps, veut dire le mot moed, veut dire rassemblement, rencontre également, veut dire saison, temps marqué, signal, lieu fixé, parce que la Bible nous apprend, nous dit que au dernier jour, lorsque le Seigneur apparaîtra, qu'il enverra ses anges rassembler tous ses élus des quatre coins du monde. C'est ce que la Bible nous dit. Donc c'est un temps, c'est une saison, c'est une solennité. Ce temps-là, ça se fait. Le temps, c'est la seule fête où on ne connaît pas exactement le jour. C'est en deux, ça se célèbre sur 2 jours parce que il y a un jour en Israël, puisque la lune se voit en Israël et cette lune peut ne pas se voir à l'extérieur. Donc c'est toujours 2 jours, c'est toujours 2 jours comme ça de battement où les gens en Israël voient la lune, ils célèbrent la fête des trompettes et puis en dehors également d'Israël. Donc c'est la fête des trompettes. Sûrement que le Seigneur ne marquera pas cela et qu'il reviendra un jour de la fête des trompettes. J'ai pas donné de date, hein, mes frères et sœurs. Comprenez ce que je dis. J'ai pas donné de date. J'ai pas dit que le Seigneur reviendra telle année. J'ai pas donné. Parce que les années ont été bidouillées. Le calendrier biblique qu'on utilisait dans l'ancien temps, on ne sait plus. Parce que même le calendrier rabbinique a été bidouillé. D'accord, on ne sait plus. Les fêtes ont été bidouillées, ont été changées, ont été les calculs ont été. Donc on ne sait plus aujourd'hui. Le calendrier julien, on ne sait pas, on ne sait même pas si ça tombe exactement un jour de fête des trompettes. Vous comprenez? On ne sait plus. Le calendrier grégorien également, vous savez, les orthodoxes ont le calendrier, les catholiques ont le calendrier, les rabbins ont le calendrier. Ça a été bidouillé, donc. On ne sait plus aujourd'hui, hein, quand ça tombe. On a des dates, ça c'est vrai, mais on ne sait pas si c'est la vraie date selon le calendrier biblique aujourd'hui. On ne sait plus. Les messianiques aussi ont leur date, donc moi je suis complètement perdu aussi. On ne sait pas. Voilà. Donc, seul l'Éternel Dieu sait le jour où il donnera l'ordre à son fils. Voilà, que c'est fini, que les temps sont accomplis, ainsi de suite, que c'est fini, que la trompette doit sonner. Mais, néanmoins, comme il a accompli avec exactitude les Écritures lors durant les 4 premières fêtes de printemps, nous sommes sûrs, l'Éternel Dieu ramène toujours ce qui a été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes frères et sœurs. n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Que Yeshua va accomplir également la fête des trompettes, la fête des chauffards, comme on dit, la fête des chauffards. Des chauffards, cet instrument comme de billet qui donne un son puissant, hein, un son puissant qui vous fend le cœur, qui vous donne de l'épouvante même des fois. Vous savez, donc c'est ça. Mais ce serait un moment de réjouissance pour les disciples et de peine pour les non-croyants. Voilà, pour les non-croyants. C'est ça, mes frères et sœurs. Je pense que c'est ça. Personne ne connaît le jour exact, ni la date, ainsi, ni l'année. L'année, on ne connaît pas. Néanmoins, vu ce que nous venons de voir pour les quatre premières fêtes, nous sommes sûrs que, moi j'ai cette conviction-là, nous sommes sûrs que Yeshua reviendra un jour de célébration de la fête des trompettes. J'ai parlé du calendrier qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Exactement. Nous avons des dates, des calendriers où la fête des trompettes se fête, mais est-ce les vraies dates, puisque les calendriers ont été bidouillés, ont été changés. Même le calendrier rabbinique a été changé. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, donc, nous continuons dans notre démonstration. Donc, il reviendra, ou bien le rassemblement avec Yeshua se fera donc un jour de la fête des trompettes. C'est un jour d'appel du peuple. On lui rappelle, hein, au son de la trompette, donc on rappelle au peuple, donc ce jour-là, au son de la trompette. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Voilà, parce que la fête qui va suivre, la fête des expiations, des péchés, ainsi de suite, on nous dit aux gens de se préparer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait durant toute l'année qui est en train de s'achever là? Est-ce que vous êtes encore dans le Seigneur ou pas? Est-ce que vous êtes encore dans la foi? Préparez-vous, préparez-vous. Mais ce jour-là, on n'aura pas le temps de se préparer. C'est seuls ceux qui seront prêts qui iront à la rencontre donc du Seigneur Yeshua ou du Seigneur Jésus, le Messie, dans les airs. Le verset 26 de Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, donc nous avons vu le premier jour du septième mois, mais aujourd'hui, la fête des trompettes est appelée Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête de l'année civile en Israël. La tête de l'année civile en Israël. Le verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Voilà, donc c'est ce jour-là où il y a expiation des péchés. C'est le seul jour où le grand souverain sacrificateur a le droit d'entrer dans le lieu Saint des saints, dans le lieu très saint où on offre à l'Éternel, on tire au sort un bouc pour l'Éternel, un bouc pour Azazel, d'accord, qu'on chasse dans le désert, qui va emporter les fautes, le péché donc du peuple. C'est ce jour-là et il faut être prêt, il faut être sanctifié, il faut être à part. Et si le souverain sacrificateur ne s'est pas sanctifié, hein, le souverain sacrificateur mourrait. Et ce que, à l'époque, on faisait, on mettait donc au pied du souverain sacrificateur donc, une corde avec des clochettes, une corde, pour que s'il lui arrivait malheur, il tombait raide mort, pour qu'on puisse tirer son corps et le sortit, puisque personne n'avait le droit donc d'entrer donc dans le lieu très saint. Hein, voilà. Donc c'est ce jour-là qu'on fait expiation du péché, ainsi de suite. C'est on note le péché du peuple. Et de la même manière, le jour de la fête de l'expiation verra la victoire de Yeshua sur l'anti-messie, et sur le diable. Le diable sera capturé le jour là, puisque le diable c'est à la puissance du péché, le tentateur, la puissance donc du péché, c'est lui représente le péché, c'est lui qui a introduit le péché dans le monde par l'intermédiaire donc de nos premiers parents, de Ève et Adam et Ève, Adam et Ève. Donc c'est lui. Donc comme il sera emprisonné, il sera capturé, et quand Yeshua vaincra donc les armées à Armageddon, et qu'il capturera donc l'anti-messie et tous ces et le faux prophète, et qu'il liera donc le diable, il le liera, donc le péché donc sera ôté, et Yeshua descendra donc seront Zacharie donc pour protéger donc Israël et tous les croyants. Donc on parle la fête des trompettes qui sera ce que nous appelons communément enlèvement. Et puis la fête des expiations, c'est le retour physique de Yeshua sur la terre, donc avec tous ses saints, avec tous ses saints. Où l'antichrist, donc l'anti-messie sera vaincu, de même que le faux prophète, de même que les armées donc qui sont venues contre Jérusalem. D'accord, ces armées seront vaincues et Yeshua va triompher donc de tous ses ennemis et va ôter le péché donc du monde. Je n'en fais pas une doctrine, mais c'est ce que je pense aujourd'hui. Peut-être que j'exagère, mais non, en tout cas, voilà, ce sont des réflexions, des pistes de réflexion. Donc, je vous le soumets, je vous l'envoie, donc à vous aussi de réfléchir là-dessus et de pouvoir continuer donc cette réflexion. D'accord? Voilà. Donc, le diable aussi sera lié pendant cette période, ou bien à la fin de cette période. Je ne connais pas le calendrier exact, je ne vais pas me lancer dedans, mais selon la signification de la fête des expiations, où le péché est pardonné, le péché est ôté au-dessus du peuple, le péché est emporté loin, dans le désert, d'accord? Dans le désert, dans un lieu aride. Vous voyez, c'est comme l'étang du feu, où le diable sera lié dans le désert, emprisonné dans un lieu, pour qu'il ne dérange plus le monde. Il sera emprisonné. Je ne connais pas le calendrier. Donc, l'anti-messie et tout cela seront châtiés. Le faux prophète, voilà, seront châtiés, seront détruits, de même que les armées donc venues contre Jérusalem et leur chef en question, qui est leur inspirateur, leur dirigeant derrière le rideau. Le diable qui a la puissance de l'air, la puissance du péché, donc sera lié pour 1000 ans, sera lié pour 1000 ans. Peut-être que sera au début de la fête de Soukhot, mais je ne connais pas le calendrier. Mais je me dis que comme la fête des expiations, c'est une expiation des péchés, on enlève le péché, on pardonne, Dieu pardonne le péché donc du peuple. Le péché emporté dans le désert, dans un lieu aride, de la même manière, le diable sera éloigné. Vous voyez, quand on chasse le bouc pour Azazel dans le désert, le péché est éloigné du peuple de la même manière. Donc, pendant cette période de la fête des expiations, donc, le diable sera éloigné donc du monde pour un certain temps. L'anti-messie détruit, le faux prophète détruit, et les armées venues contre Jérusalem vaincues et détruites également, et le reste de toutes les nations donc va entrer dans le millénium. Donc ce sera la fête de Soukhot ou la fête des cabanes. Le verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, le verset 33 du chapitre 23 de Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. D'accord? C'est une fête de joie, de réjouissance, ou égale, qui met fin au cycle agricole, au cycle des fêtes. Donc c'est comme une apothéose, c'est comme la conclusion de toutes ces fêtes qui, ont commencé, donc de tout le processus de fête qui a commencé depuis la Pâque. D'accord? Depuis la Pâque. La fête de Sukkot, il met fin, c'est l'apothéose, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie, on remercie l'Éternel, on pousse tous ses bienfaits, et selon la tradition hébraïque, c'est de préparer, même si on vivait dans les cabanes et dans les huttes, pour montrer que nous sommes des pèlerins. Vous voyez, pour montrer que nous sommes des pèlerins, que ce monde-là que nous avons n'est pas un habitat perpétuel, que nous avons une autre maison, que nous devons rechercher donc autre chose. Mais pour le moment, nous remercions l'Éternel Dieu pour ce qu'il nous a donné, pour l'abondance, pour tout. Donc, c'est une fête de réjouissance. Et dans la tradition juive, il faut amener ces couverts les plus jolis, les assiettes de valeur et les couverts de valeur. C'est avec ça qu'on sert, on jouit de la fête de Sukkot. Et il est nécessaire de fêter cette fête avec 4 variétés agricoles que je vous épargne ça, 4 variétés agricoles. Donc, c'est la fête donc, du cycle des fêtes. C'est un moment de réjouissance. C'est durant cette fête-là qu'on offrait donc les 70 taureaux également pour les nations, pour l'expiation des nations. Vous voyez que c'est une fête qui concerne l'humanité entière. L'humanité entière. D'accord? L'humanité qui concerne l'humanité entière, qui concerne donc tout. De la même manière, aujourd'hui, il est connu que beaucoup de nations vont à Jérusalem à la fête de Sukkot au 8e jour pour parader à Jérusalem, pour célébrer la fin de cette fête-là, pour louer l'Éternel, pour se réjouir avec Israël de cette fête de Sukkot. Hein, voilà, donc beaucoup de chrétiens y vont chaque année. Chaque année, en septembre, beaucoup de chrétiens y vont. Donc, la fête de Sukkot va symboliser l'entrée dans le millénium. Ce sera l'entrée dans le millénium, l'apothéose qui va conclure donc ce que Yeshua a commencé à la Pâque. Hein, c'est la fête de Sukkot qui va conclure cela. Cette fête de Sukkot va conclure cela. Et la Bible nous dit que à partir de là où Yeshua va régner comme le roi de justice sur ce monde, où les nations vont apprendre la gouvernance divine, que la fête de Sukkot sera célébrée chaque année. C'est la seule fête qui restera pendant le millénium. De même que le Shabbat également. Parce que le Shabbat est également une fête ici. Pendant le millénium, donc il y aura le Shabbat, mais également la fête de Sukkot. C'est la seule fête où la Bible nous dit que toutes les nations de la terre enverront des délégations chaque année à Jérusalem. C'est la Bible qui le dit, hein? C'est pas moi. Enverront donc des délégations donc à Jérusalem pour célébrer que les délégations, les pays qui n'enverront pas de délégations, ils seront punis de sécheresse. Il n'y aura pas de pluie. C'est la Bible qui le dit. Vous lirez vous-même dans la parole de Dieu. Nous sommes tous des étudiants de la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut l'étudier comme des Béréens. Donc, je résume la fête de Pâques. Yeshua est mort. A expié nos péchés, a pris nos péchés, voilà, comme sacrifice. Il est sans péché, la fête des pains sans levain. Il est ressuscité, fête des prémices, n'est-ce pas? Il a envoyé son Esprit Saint à Shavuot, la fête de la Pentecôte, qu'on appelle Pentecôte. La fête des trompettes, la trompette va sonner pour rassembler les élus de Dieu. Expiation, la fête des expiations, ou de Kippour, hein, ou la guerre d'Amageddon, où Yeshua va vaincre, va revenir physiquement sur la terre, vaincre les armées qui viendront contre Jérusalem. L'anti-messie sera vaincu, le faux prophète aussi, voilà, ratatiné. Et le diable est lié pour 1000 ans. La fête de Sukkot, c'est l'entrée dans le millénium. Voilà. Et chaque année, toutes les délégations de la terre, donc tous les pays vont envoyer une délégation à Jérusalem pour célébrer cette fête. C'est la seule fête de l'Éternel qui est restée, hein, qui restera donc pendant le millénium. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voudrais vous soumettre. Mais aujourd'hui, tout est mélangé parce qu'on ne sait plus. Le calendrier a été bidouillé, a été mélangé. Donc, on ne sait plus, on ne sait plus, on ne sait plus. Voilà, donc, la trompette sonnera, pas n'importe quel jour, mais ce sera le jour que le Seigneur décidera. Mais je pense que ça s'inscrira donc dans cette fête des trompettes. Voilà. Donc ces fêtes-là, comme ce sont des marques, comme ce sont des moèdes, comme ce sont des signaux, comme ce sont des temps, des moments fixés par l'Éternel de sa propre autorité, nous pensons que ces fêtes-là nous préparent, mais doivent nous donner le rythme, sont des références, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que l'Éternel ramène toujours ce qui a été. Ce sont des temps de rassemblement, sont des signes fixés. C'est des signes fixés. C'est des signes fixés, immuables. Comment, vous voyez, même le simple fait que ces fêtes, Moed, ont été associées aux astres. Or, la Bible nous dit quelque chose, que les astres sont les éléments les plus stables de l'univers. C'est dans Hébreu, je ne sais plus dans quelle partie l'Éternel Dieu en parle, mais les astres sont les plus stables de l'univers. Les astres, d'accord? De la même manière que ces fêtes ont été associées à ces astres, ça montre que, je pense que c'est dans Hébreu, ou bien c'est le cantique de Moïse, où Moïse a interpellé le ciel, la terre, la lune et les étoiles, les a pris à témoin lorsqu'il parlait aux Israélites qu'un jour, ils allaient se détourner de la parole de l'Éternel Dieu vivant. On s'est demandé pourquoi Moïse a interpellé le ciel, la terre, les astres, le soleil, ainsi de suite. Voilà, c'est pour dire que ces astres sont les éléments les plus immuables, voilà, de l'univers, et que ces choses-là ne changent pas, et alors que les Israélites vont changer. D'accord? Voilà, ce sont les plus immuables. De la même manière que ces fêtes, ces moadim, ou moed, sont liées aux astres, ça nous montre que ces fêtes doivent être des référents, des signes fixés, comme le mot moed signifie. C'est des signes fixés, c'est des signaux, c'est des références, c'est des temps marqués, c'est des rassemblements, c'est des fêtes, c'est des lieux fixés, c'est un signal, c'est un moment. C'est une solennité, c'est des solennités, c'est des saisons, d'accord? Nous voyons cela, c'est des saisons. Mes frères et sœurs, nous devons examiner toute la parole, avoir une vie générale sur la parole. Je le dis bien, je n'en fais pas une doctrine, mais c'est une réflexion, c'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis des années, mais aujourd'hui, je l'ai dit, et voilà, j'assume totalement mes propos. Je n'ai pas donné de date, que personne n'aille dire que voilà, j'ai donné des dates ou une année, que ce sera le retour du Seigneur Jésus. Non, j'ai pas donné ça. Hein, Yeshua reviendra comme lui-même il a dit, comme un voleur dans la nuit, ou L'église sera dans un état lamentable, on l'a vu. On a 10 vierges, 5 sont sages et 5 sont insensées. Ou bien qui ne prennent pas leur vie de disciple au sérieux, qui préfèrent plutôt s'amuser, qui préfèrent donc s'amuser, quoi. Ou bien mener une vie légère. Oh oui, nous allons au ciel, alléluia, et puis c'est tout. Voilà. Ou bien c'est des vierges qui s'attachent donc aux choses de ce monde, qui cherchent d'abord à jouir. Il faut jouir. Tout ce que l'Éternel nous donne, c'est pour que nous puissions en jouir. De la même manière qu'il nous a donné à nos parents le jardin d'Éden, vous voyez qu'il a tout créé avant de mettre l'homme. Pour que l'homme puisse, l'être humain, l'humain, plutôt l'humain, pas l'homme, puisse jouir de ces choses-là. Donc, il est normal de jouir de la vie quand on a les moyens, mais de ne pas oublier que c'est l'Éternel Dieu qui donne toutes ces choses-là. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Amen et Amen. Mon shalom à tout le monde. Amen. Soyez bénis et fortifiés, comme le dit la chanson. Voilà, jusqu'à la mort, d'accord? Jusqu'à la mort, soyons fidèles, soyons fortifiés et saints. Et saints en toutes choses, cherchons l'approbation de Dieu en toutes choses, cherchons sa vérité, cherchons sa parole, cherchons à lui obéir, cherchons à lui plaire, cherchons à faire sa volonté, à avoir une obéissance comme celui de Yeshua lui-même qui dit qu'il ne fait rien sans l'ordre du Père. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde et vous fortifie. Amen et Amen. Que ceux qui sont malades soient guéris maintenant au nom de Yeshua. Que ceux qui souffrent soient soulagés au nom de Yeshua. Oh oui. Que tous ceux qui souffrent, ou bien quelle que soit votre peine, quel que soit votre problème, sachez que Yeshua est la solution. Amen.